soir avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux thèmes ont été retenus pour vous, à savoir, le président tanzanien estime que l'envoi de la brigade d'intervention de l'ONU en RDC est une bonne chose, mais cela ne résoudra pas le problème des frontières politiques. Dans notre deuxième thème et dernier thème, nous serons dans la province du Nord Kivu, où les communautés ethniques de cette province demandent au gouvernement congolais d'éviter l'intégration des étrangers, des criminels ou des rebelles au sein des FRDC. Trois confrères participent à ce débat, à savoir Marcel Ngoyi, éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui parie à Kinshasa. Bonsoir Marcel.
Bonsoir Kéline.
Blaise Zainda, journaliste à la radio-télévision Digitale Congo, émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Blaise.
Bonsoir Kéline.
Et Alain Touma, directeur de rédaction de la radio Kivu 1, émettant depuis Goma au Nord Kivu. Bonsoir Alain.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs qui nous passent à Paris.
Merci de nous suivre par son RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, retrouvez-nous sur notre site internet www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé et traité les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Alain Rung.
Bonsoir. Plusieurs journaux sont revenus sur la déclaration du président tanzanien en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. L'avenir indique pour Jakaya Kikwete, Kagame et Museveni doivent négocier avec les FDLR et les ADF Nalu. Le président tanzanien Jakaya Kikwete, plus soucieux de la paix que ses autres homologues, vient de jeter le pavé dans la mare. Puisque sa déclaration a intrigué ses homologues, Kagame et Museveni, tous deux présents à ce sommet de l'Union africaine, n'avait pas été informé au préalable. Selon la Prospérité, Kabila avec le M23, Kagame avec les FDLR et Museveni avec les ADF Nalu. La déclaration du président Kikwete est tombée à un couperet qui vient de trancher une crise éreintante et douloureuse. Pour lui, la brigade d'intervention des Nations Unies n'aura aucun impact si le dialogue ne s'ouvre pas entre les différents protagonistes, y compris entre le Rwanda et les FDLR et entre l'Ouganda et l'ADF Nalu. Fin de citation. Le potentiel publie les réactions de la classe politique au propos de la ministre sud-africaine de la Défense, Nosoviwe Mapisa, sur le baby-sitting que feraient en RDC les troupes sud-africaines de la nouvelle brigade d'intervention de la MONUSCO. Le potentiel titre, baby-sitting de l'Afrique du Sud en RDC, l'opposition parle d'injures, le gouvernement relativise. C'est le gouvernement et sa gestion de l'armée congolaise qui sont critiqués, mais c'est l'opposition qui monte au créneau. Les propos de la ministre de la Défense sud-africaine passe mal auprès d'une partie de la classe politique. Il en va de la fierté du pays, estime Jean-Joseph Mukendi, ancien conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. C'est une injure pour le peuple congolais, tonne ce dernier. Par rapport à la recommandation des communautés ethniques du Nord Kivu au gouvernement, la référence plus souligne des communautés du Nord Kivu disent non à l'intégration d'étrangers ou des rebelles dans l'armée. Et la consoeur de poursuivre que pour plus de 200 notables du Nord Kivu, l'une des voies de sortie pour cette province après plus de 20 ans de guerre à connotation ethnique et la formation d'une armée capable de veiller à l'intégrité du territoire. Dans un tout autre chapitre, le Phare signe « Ceni, le Vatican dit non à Malu Malu », lequel CC a tenu un point de presse à son siège dans la communauté de Kalamu. L'un des points saillants a été la confirmation du refus catégorique du Saint-Siège de voir l'abbé Malu Malu ou un autre membre du clergé catholique siéger à la Ceni.
Merci Alain Rung pour cette revue de presse. Marcel Ngoyi, le problème se pose toujours au niveau de la désignation des membres de la CENI, surtout pour la société civile.
Oui, surtout pour la société civile, mais aussi du côté des partis politiques. Cette revue qui vient de nous être présentée il y a quelques instants est très intéressante, mais elle aurait pu être plus complète si on y ajoutait un peu l'intervention de Félix Tshisekedi qui rejette l'offre qui lui a été présentée, si elle intégrait les contradictions au sein de la société civile, comme vous l'évoquez, mais aussi, en fait, le délai même de 45 jours qui bientôt va tirer à sa fin, sans qu'on ait mis en place, sans qu'on ait désigné effectivement le. Et puis aussi la session plénière, la session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat qui tirent à la fin. D'ici le 15 juin, c'est fini la session. Est-ce que dans le peu de jours qui restent, on aura arbitré tous les conflits pour que nous en arrivions à des conclusions? J'ai l'impression qu'on pourrait même aller vers une session extraordinaire si on veut vraiment examiner la question de la CENI.
Blaise Zaïnda, vous pensez qu'on va aller jusqu'à convoquer une session extraordinaire pour la désignation des membres du bureau de la CENI?
Je pense qu'il faut il faille faire confiance aux déclarations qu'a faites le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, qui a affirmé que le délai sera effectivement respecté, et ce n'est pas pour rien qu'il a fait une sorte de mise en garde où il a lancé un ultimatum à l'UNC pour proposer les candidats de l'UNC alliés. Je crois qu'il a suffisamment d'outils pour pouvoir dans le délai imparti nous donner les noms de personnes qui pourront animer le prochain bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Je ne pense pas qu'il sera dans l'obligation de dépasser même cette session pour convoquer une session extraordinaire.
Mais avec tous les blocages qu'on observe au sein de la société civile ou même du côté de l'opposition, est-ce qu'il ne faut pas craindre?
Bon, je crois que cette fois-ci, les Congolais devront tout de même se dépasser pour essayer un peu de, je ne voudrais pas dire être sérieux, de respecter un peu les normes qui régentent un certain nombre de fonctionnement des institutions au niveau du pays, car le caractère sérieux d'un pays ou d'une nation va déjà sur des fonctions basiques comme celle-là. Nous osons croire, nous pouvons leur donner le bon Dieu sans confession, nous pensons que les partis politiques savent que la population attend urgemment connaître le nom des animateurs du bureau de la CENI et que ces partis politiques-là devront effectivement travailler d'arrache-pied pour nous donner des noms que nous ne faisons qu'attendre.
Alain Tchouma, vous intervenez depuis Goma au Nord Kivu. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans cette province?
Bon, en fait, l'actualité reste toujours dominée par l'état de guerre que nous sommes en train de décider ici en province et surtout dans la partie est où nous comptons toujours des gens dans cette psychose de la guerre, mais quand même cette détermination cette fois de l'unité des commandos des FARDC qui disent vraiment aujourd'hui ils sont aux aguets et sont prêts à combattre pour l'intégrité territoriale de la RDC mais aussi de l'est du pays. Que c'est juste là, l'actualité est dominée par l'état de guerre que nous sommes en train de subir au jour le jour ici en province, mais quand même aujourd'hui la population va librement à ses occupations en attendant peut-être d'autres modalités qui seront prises d'un moment à l'autre.
Merci Alain Tchouma. Premier thème de ce soir, le président tanzanien estime que l'envoi de la brigade d'intervention de l'ONU en RDC est une bonne chose, mais cela ne résoudra pas le problème de fond qui est politique. Il s'est exprimé ainsi en marge du 50e anniversaire de l'Union africaine à Addis Abeba. Il a également proposé au gouvernement congolais de reprendre les négociations avec le M23, au Rwanda avec les FDLR et à l'Ouganda avec les ADF Nalu. Pour Jakaya Kikwete, il n'y a pas d'épée durable sans négociation globale. Le Rwanda n'a pas tardé de qualifier les propos du président tanzanien d'aberron. Les détails avec vous, Innocent Olinga.
Pour le président tanzanien cité par Radio France Internationale, autant qu'il est recommandé à la RDC de négocier avec les M23, autant les Rwanda et l'Ouganda devraient aussi les faire avec les FDLR et l'ADF Nalu. Bien que saluant les déploiements de la brigade d'intervention, Jakaya Kikwete, qui est dans la logique d'une approche globale pour la résolution de la crise dans la région des Grands Lacs, soutient que cette brigade ne résoudra pas les problèmes de fond dans cette région qui est politique. Sur la même Radio France Internationale, Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, a qualifié les propos du président Kikwete d'aberrants. Pour elle, les FDLR sont un groupe de génocidaires qui ont quitté les pays après avoir participé à l'élimination de plus d'un million de Rwandais. Ceux qui pensent que les Rwandais devraient s'asseoir à la table des négociations avec les FDLR ne savent pas ce qu'ils disent, conclut Madame Mushikiwabo. S'agissant de la brigade d'intervention, Paul Kagame, interrogé par Jeune Afrique, déclare que ce n'est ni le bon diagnostic ni le bon médicament. Pour lui, la solution pour résoudre la crise dans l'est de la RDC doit être politique, parce que le problème est politique interne au Congo.
Merci, Lonson Linga. Marcel Ngoui, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Comment vous analysez les propos du président tanzanien qui estime que l'envoi de la brigade c'est une bonne chose, mais cela ne résoudra pas le problème de fond qui est politique. Il faudra que la RDC et le gouvernement congolais reprennent les négociations avec le M23, le Rwanda avec les FDLR et l'Ouganda avec les ADF Nalu.
Oui, les propos du président tanzanien sont, je les trouve justifiés par le souci d'engager le dialogue, d'entretenir des discussions à propos de l'avenir de ce pays. Parce qu'en fait, le pays ici, si les gens s'entre-déchirent, c'est parce qu'il y a des divergences. Il y a des vues qui sont très divergentes par rapport à sa gestion, à sa gouvernance. Mais seulement, il faut contexter ce que le président tanzanien a dit par rapport à l'avancée même de la problématique de la résolution de la crise dans ce pays. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas stigmatiser la crise uniquement autour du M23. M23 n'est pas l'unique groupe armé opérant dans l'Est. Ils sont, je ne sais pas, une cinquantaine, une soixantaine, et tous les jours, il est possible qu'on en crée d'autres. Et les foyers,
mais l'impression qu'on a, foyers, c'est qu'on priorise un peu plus les M23 que les autres groupes
armés. Plus les M23, parce que c'est les M23 peut-être qui a appuyé un peu plus sur la gâchette, ou qui a été un peu le mouvement le plus en vue. Mais la réalité est que lorsqu'on parle du dialogue, lorsqu'on parle des concertations, à mon sens, il faut imaginer une formule qui ferait qu'en dehors du M23, que tous les autres groupes armés opérant dans l'Est participent à cette discussion-là. Et donc, s'il y a discussion à faire et un espoir à fonder, c'est de voir comment mettre autour d'une table, au-delà du M23, tous les autres groupes armés opérant dans l'Est, mais aussi les politiques qui n'ont pas pris les armes, parce que il n'est pas exclu que ceux qui n'ont pas pris les armes aujourd'hui le prennent un autre jour. Tous ceux qui se battent aujourd'hui ont été parfois en politique. Jean-Marie Runiga a été à Kinshasa ici, il a assumé des postes au FPI, mais aujourd'hui il est de l'autre côté, même si il a été défenestré par une sorte de crise interne au sein du M23, mais il a été à Kinshasa. Vous voyez, donc il faudra qu'on envisage ce type de dialogue-là qui verrait que...
Est-ce que ça sera la continuité de pour parler de Kampala, ou bien c'est un autre dialogue qu'il faut organiser?
Moi je suis pour la rupture. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a moyen d'avoir plusieurs fers au feu, d'avoir des discussions peut-être séparées comme cela a déjà commencé avec le M23, mais quitte à voir comment les mettre en relief avec les concertations ou les dialogues exigés ici à Kinshasa, et voir comment, sur un terrain peut-être neutre, arriver à mettre autour d'une table tous ceux qui se battent armes à la main, pour trouver des solutions. Moi, je pense que c'est cela. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Par rapport à la solution globale recherchée, préconisée par le président tanzanien, c'est pas facile aujourd'hui de pouvoir dire que le Rwanda accepte de dialoguer avec l'FDLR et que le Museveni puisse dialoguer avec les ADF-NALU sans prévoir des moyens de contrainte. Ces pays-là ont déjà dit non à leurs rebelles respectifs. Alors que ces pays-là se passent aujourd'hui pour des chantres qui exigent que le gouvernement congolais puisse dialoguer avec ses propres rebelles. Donc vous voyez un peu le contraste. Ces pays ont dit non. Il y a même Kagame, dans l'interview évoquée par l'interview à Jeune Afrique, Kagame a dit qu'il sait très bien ce que l'FDLR recherche. L'FDLR garde leur intelligence, garde une dent, une sorte de vengeance contre, parce qu'ils cherchent le pouvoir et on ne le leur donnera jamais. Donc pas de dialogue avec les FDLR, ni avec les ADF-NALU.
Blaise Zainda, vous êtes journaliste à la radio-télévision Digital Congo qui est mis depuis Kinshasa. L'envoi de la brigade d'intervention est une bonne chose, mais ce n'est pas une solution, ça ne résoudra pas le problème de fond qui est politique. Vous appuyez cette déclaration du président tanzanien?
Bon, d'abord, je voudrais saluer la volonté du président tanzanien, très pacifique, Jakaya Kikwete, qui voudrait effectivement que l'on puisse résoudre les problèmes en parlant, en se mettant autour d'une table ou bien sous les arbres comme le font les Africains. Mais il faudra souligner que de tous les trois pays, il n'y a que la République démocratique du Congo qui a fait des avancées significatives en ce qui concerne les dialogues. Rien que dans la province du Nord Kivu, il vous souviendra que le gouverneur Kanyamouanga, le gouverneur Serufuli et même Julien Paluku Kaonga ont à plusieurs reprises initié des sortes de dialogues avec les communautés, des sortes de dialogues avec effectivement les différents groupes armés, et même le chef de l'État Joseph Kabila.
Mais qui ne donne rien à la fin.
Justement, qui n'aboutissent pas. Des raisons, il faudrait que nous-mêmes puissions chercher les vraies raisons qui, sans doute, j'ose le croire à mon humble avis, cela n'engage que moi, sont effectivement lié à des mécontentements sur base des positionnements politiques qui n'arrivent pas, et ce qui invite quelques fils du pays à pouvoir alimenter certaines milices opérant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais il ne faudrait pas oublier, le Rwanda n'a jamais engagé des discussions avec l'FDLR. L'Ouganda n'a jamais engagé des discussions avec les ADF-NALU. Et de tous les trois groupes armés, s'il faudrait que l'on parle du M23, il n'y a que
le M23 qui subit effectivement les allaitements de pays tels que le Rwanda ou l'Ouganda. Ça, c'est un secret polichinelle que de les dire. Mais les ADF Nalu n'ont jamais dit qu'elles étaient, que ces groupes étaient alimentés par la République démocratique du Congo, encore moins l'FDLR. Hein? De temps en temps, il faudrait que l'on prenne pour exemple les efforts fournis par la République démocratique du Congo à tous les niveaux. Il y a tout récemment, il y a Kampala où même l'opposition est partie pour essayer d'entendre un peu ce que voulaient les M23. Mais est-ce que le Rwanda a déjà fourni ces efforts-là? Je ne crois pas. Donc s'il y a de ces personnes, s'il y a de ces pays qui doivent engager des discussions, c'est le Rwanda.
Mais est-ce que ça c'est la position Blaise Zainda que le Rwanda engage aujourd'hui des discussions avec les FDLR? Qu'est-ce que ça apporterait dans cette crise en RDC?
Bon, ça ferait peut-être que le Rwanda puisse faire quelques concessions pour que tous ceux qui sont en train de s'aimer la terreur au niveau de nos forêts à l'est du pays puissent effectivement entrer ou rentrer chez eux au Rwanda et nous laisser tranquilles, mener notre vie aisément. Parce que nous, on a déjà engagé des discussions, on est même en pleine discussion avec la M23. Mais le Rwanda n'est pas en discussion avec la M23, et plutôt avec les FDLR, encore moins l'Ouganda avec les ADF Nalu. Donc, je pense que la force d'intervention, la brigade spéciale des Nations Unies, elle vaut son pesant d'or. Il faudrait qu'elle entre en action aux côtés des FARDC pour que nous puissions voir ce qu'elle pourra donner pour une fois, que la force parle, et puis on verra
elle
ce que ça va.
Elle viendra en appui aux FARDC. Est-ce qu'on a une armée capable d'affronter tous ces mouvements rebelles qui pilulent dans l'est de la RDC?
Je crois qu'il ne faudrait pas que l'on puisse de sitôt penser que la République démocratique du Congo dispose d'une armée qui n'est pas forte. Plusieurs fois, l'histoire nous le dira, même au Tchad, même au Rwanda, plusieurs fois, ce sont les mêmes hommes, on peut le dire ainsi, c'est la même armée qui est allée remettre de l'ordre plusieurs fois dans d'autres pays. Et pourquoi ça ne marche pas pour le moment? Nous sommes en plein...
Il y a eu mixage, il y a eu brassage, Blaise Zainda.
Justement, ce sont des fruits qui étaient bons, mais qui ont été rongés par le mixage et tout ce qui est venu d'ailleurs pour essayer un peu de rendre ces fruits-là mauvais. Mais nous avons une armée qui, comme elle est en train de l'éprouver présentement au niveau de la périphérie des Goma, elle peut, si on lui donne de moyens, si on lui donne la nourriture, si on lui donne la motivation, elle peut même ramener les M23 jusqu'au Rwanda.
Alain Tchouma, directeur de rédaction de la radio Kivu 1, émettant depuis Goma au Nord Kivu, quelle est votre lecture à vous par rapport à la déclaration du président tanzanien Jakaya Kikwete?
Oui, madame, je remercie, je félicite d'abord le courage du président tanzanien Jakaya Kikwete, qui a joué presque trois rôles à la fois. Il jouait d'abord le porte-parole des trois organisations à la fois, entre autres. Quand Jakaya Kikwete parle de cet état des choses, je suis sûr qu'il a touché dans l'aps pour ramener peut-être les trois présidents, entre autres le président Joseph Kabila, Paul Kagame et Museveni, à se réveiller pour savoir quelle est la ligne qu'il faut prendre pour ces négociations. Mais les déclarations de Jakaya Kikwete sont les déclarations que le président congolais devrait faire il y a longtemps. Les déclarations de Jakaya Kikwete sont les déclarations que Mel Robinson, qui a été choisi comme envoyé spécial des Nations Unies dans la région du Grand Lac, devrait dire. Et même du secrétaire général des Nations Unies qui vient de terminer il y a peu de temps sa tournée ici en province et dans l'est de la RDC et de la région, dans la région des Grands Lacs plutôt. Et aujourd'hui, ce qu'il fallait comprendre, madame, le problème qui guette la RDC aujourd'hui, c'est un problème régional où le problème ne sera résolu en aucun jour si le problème du Rwanda n'est pas encore résolu, si le problème de l'Ouganda n'est pas encore résolu. Nous avons les ADF Nalu qui sont des rebelles ougandais. Nous avons les FDLR, qui sont des rebelles rwandais. Et nous avons le M23, et ce n'est pas seulement le M23 qui est groupe rebelle, nous avons plus de 70 groupes rebelles. Et c'est là où je devrais compléter le président Jakaya Kikwete. Il faut dialoguer avec les groupes rebelles, ce n'est pas seulement le M23, c'est avec d'autres groupes rebelles, parce que de part et d'autre, ils tracassent la quiétude de la population. Voilà un peu ce qu'il fallait faire. Et autant de fois que ce problème a été mis à jour, c'est la seule solution qui resterait pour la RDC. Et heureusement que le président tanzanien a avancé. C'est ce que tout le monde devrait comprendre. Mais pourquoi le Rwanda ne veut pas dialoguer avec les FDLR, les considérant comme des génocidaires? Mais ce que les autres groupes armés font ici, c'est du quoi? Si ce n'est pas du génocide, ce n'est pas des crimes contre l'humanité. Les ADF n'ont même. Est-ce que la RDC est un dépotoir pour qu'il reste au jour le jour et pendant l'éternité ici en RDC? Voilà un peu le problème qui montre à suffisance que le président de la région des Grands Lacs n'a pas vraiment fait souhait de rendre la RDC sa paix durable qu'il a toujours demandé. Parce que c'est son devoir et son droit légitime.
Donc il y a manque de volonté politique.
Je l'imagine, madame, qu'il n'y a pas de volonté politique parce que le Rwanda refuse de dialoguer avec ses rebelles. Vous voulez que nous les mettions où, ici au Congo?
Selon le président rwandais, la crise en RDC, ça n'a rien à voir avec le Rwanda.
Mais comment c'est pas un problème qui engage le Rwanda? Mais ces rebelles, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Coûte que coûte, il faut qu'ils rentrent chez eux. Je crois peut-être que si le président rwandais reste, il faut à tout prix qu'il se réveille pour comprendre que coûte que coûte, il faudra que le M23, le FDL rentre chez eux. Il faudra que le président ougandais comprenne que les adhérents doivent rentrer en Ouganda et que les problèmes internes de la RDC, nous les résolvons ici à l'interne. Mais au temps où ils refusent de traiter ces problèmes entre eux, ça montre à suffisance qu'il n'y a pas une volonté politique entre ces deux. Et si on dialoguait aujourd'hui avec le M23, mais nous allons terminer le problème avec le M23, signalons. Et supposons, si je suis quand même optimiste par rapport à ce qui se passe à Kampala. Mais après le M23, mais il y aura toujours des FDLR, il y aura toujours des ADFNALU, c'est que le problème ne va même pas trouver solution.
Et la solution, selon vous, serait quoi?
Que la solution soit régionale, où chaque pays parle avec son groupe rebelle. Et l'intégrer si possible, parce que nous on demande d'intégrer les groupes rebelles que nous avons. Mais nous devons le faire à l'interne et qu'ils fassent aussi leurs problèmes à l'interne. Et tout ceci se passe au vu aussi de la communauté internationale sans aucune réaction. Ban Ki-moon devrait le dire quand il était ici à Goma, quand il est parti au Rwanda, en Ouganda, il ne l'a pas dit. Mais le Robinson était ici, elle ne l'a pas dit. Voilà un peu cette complicité que je parle au jour le jour de la communauté internationale avec certains chefs d'État de la sous-région de Gangla.
Merci Alain Touma.
Je crois que c'est la seule solution qu'il fallait trouver.
Merci Alain Touma. Complicité de la communauté internationale, Marcel Ngoï, avec certains présidents de la région des Grands Lacs.
Complicité et hypocrisie sont deux mots clés qu'il faut trouver dans le comportement, dans l'attitude de la plupart des responsables, des chefs d'État et même de africains. Donc je considère que M. Kagame, si vous lisez très bien l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, vous allez vous rendre compte que la question des FDLR et consorts ne les préoccupe pas. Il a même dit vers la fin qu'il dort tranquillement toute la nuit, lui. Et il estime que il a donné le changement, il a donné le progrès, la sécurité à son État, au Rwanda. Et donc, il est sûr même de revenir en 2017 pour continuer à diriger le Rwanda. Donc, quelque part, vous comprenez que il a une sorte de fougue basée sur une certaine stratégie. Et même ici, la recommandation de Jakaï Kikwete lui dit que ce n'est pas possible de pouvoir traiter avec ces gens-là, il connaît. Et il dit même que les FDLR gardent une certaine intelligence. Depuis qu'ils sont partis, ils gardent la même intelligence. Autrement dit, il ne peut pas engager les discussions avec lui parce qu'il sait déjà ce que ces FDLR veulent. Autrement dit, on se retrouve dans une sorte de cercle vicieux où les FDLR désirent effectivement, peuvent rentrer chez eux, mais à condition qu'il y ait amnistie générale, qui est l'intégration, qui est dialogue, qui est participation au pouvoir. Et lui, sachant qu'il est d'une ethnie minoritaire, les Tutsis, donc il ne peut pas accepter que les FDLR, dont la plupart sont des Hutus, majoritaires, reviennent, parce que si on organisait effectivement des élections libres, démocratiques et transparentes au Rwanda, Kagame, dans le contexte d'un retour massif des Hutus, ne gagnerait pas. Donc, quelque part, on cherche là les sexes des anges, on va... C'est avec un Kagame et le FDLR, ça ne marchera pas. Les ADF d'Alou, ça ne marchera pas. Donc la solution régionale, je voudrais dire ceci, doit être globale, mais elle doit être même imposée. C'est-à-dire qu'il faut quelque part, au niveau des Nations Unies, si vraiment les Nations Unies étaient là pour jouer leur rôle de gendarme, les Nations Unies pouvaient, d'une manière ou d'une autre, appeler ses présidents, discuter, mettre ça à l'ordre du jour, trouver une résolution qui les engage autant que l'accord cadre et qu'il les engage à engager des discussions internes, chacun de ces pays avec ses rebelles.
Blaise Zainda, brève réaction sur les propos de la ministre sud-africaine de la Défense sur la brigade d'intervention. Je vais reprendre ses propos. Elle dit, nous avons la responsabilité de faire du babysitting au Congo dans le cadre de la brigade jusqu'à ce qu'ils aient établi leur propre structure gouvernementale. Comment vous jugez ces propos? L'opposition congolaise qualifie déjà ces propos d'injures.
Bon ben, je ne voudrais pas me mettre à lancer des colibés sur des propos émis par une dame qui, je crois, est chef d'une institution aussi importante que le ministère de la Défense au niveau d'un pays qui, du reste, est le plus puissant de l'Afrique. Mais néanmoins, le babysitting, oui, le fait qu'elle soit une femme, elle a trouvé une expression qui s'apparenterait à son genre, c'est-à-dire au fait qu'elle est femme. Donc, elle n'a pas cherché loin pour sortir un terme comme celui-là. Je ne pense pas que c'est sorti vraiment du fond d'elle. Elle l'a dit, effectivement. C'est vrai que ce sont des forces qui viennent en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ce serait peut-être dire faux que de signifier que pour le moment, nos forces armées sont dans une difficulté organisationnelle.
Mais vous avez dit tout à l'heure que les FRDC, il suffisait qu'on leur donne les moyens.
Justement,
ils sont capables de mettre
en place. Je vais en arriver, Kelly, si tu le permets. Et on le sait. Plusieurs fois, je pense qu'elle sait bien qu'il y a des formations que les Sud-Africains organisent, par exemple à Moura au Katanga. Cela fait plusieurs années que les Sud-Africains forment les militaires congolais. Donc, elle n'a pu peut-être que tirer ou se ressourcer sur cet exemple-là pour dire qu'elle est en mesure d'affirmer qu'elle forme les forces armées de la République démocratique du Congo. Et elle a une ascension par rapport au FRDC. Et le terme babysitting, c'est vrai que nous ne l'acceptons pas en tant que Congolais. Mais il faudrait aussi que nous puissions admettre que nous sommes dans un état où les FRDC, pour le moment, sont sous perfusion.
Voilà, la déclaration du président tanzanien, c'était en marge du 50e anniversaire de l'Union africaine à Addis Abeba. Quel bilan vous dressez de cette organisation, Blaise Zainda, 50 ans après? Quel bilan on peut dresser de l'Union africaine?
Je peux dire que c'était vraiment une fête à l'africaine, quoi. On a fêté, on a parlé, mais en ce qui concerne les résolutions, je n'en vois que deux. La première porte sur la demande exprimée à l'endroit de la Cour pénale internationale pour lever effectivement la sanction, plutôt le mandat d'arrêt qui pèse sur Uhuru Kenyatta, le président kenyan. Et la deuxième, par rapport à la force de réaction rapide pour résoudre certains problèmes, on dit que cette force-là devrait entrer déjà en danse, vu que la première force qui devrait être opérationnelle depuis 2010 ne l'a pas été. C'est très maigre comme résultat d'une grande fête comme celle-là. Nous sommes retrouvés dans une situation où le président Hollande a parlé devant 30 personnes alors que la salle devrait disposer de 10 000 invités. Donc c'était vraiment à l'africaine. On n'a pas senti un véritable bilan de l'Union africaine. Nous l'avions dit la semaine passée, ici même dans ces studios, que c'était un bilan tout à fait chaotique en ce qui concerne l'Union africaine. On a parlé du panafricanisme, on a rendu hommage aux gens, comme je le dis, à l'africaine, mais en ce qui concerne la projection pour 2063, rien.
Merci Blaise Zainda. En termes de perspective, Alain Tchouma, qu'est-ce qui devait être amélioré au niveau de l'Union africaine?
Oui, avant peut-être, madame, de parler de l'Union africaine, permettez-moi aussi de parler en rapport avec les propos de la ministre sud-africaine de Défense. Vous savez, moi je crois qu'il fallait peut-être demander à la ministre sud-africaine d'être beaucoup plus sérieuse quand même par rapport à ses propos. C'est une ministre de défense, n'est pas de n'importe quel pays. L'Afrique du Sud, c'est une grande puissance africaine. Et vous n'allez pas nous dire qu'elle est puissante seulement sur le plan économique et militaire, mais aussi le moral doit compter. Mais quand une ministre parle des propos comme ça, un pays qui demande peut-être de son aide pour venir aider, et le pays accepte. Et après un temps, ils nous parlent qu'ils vont venir comme des babysitters. Vous connaissez babysitter, c'est quoi? C'est-à-dire cet enfant qui garde un autre enfant à l'absence de son parent. Mais vraiment, sur le plan diplomatique, il faudrait assez que la ministre soit un peu aussi sérieuse par rapport à ses propos. Je ne vais pas prêter les mots de mon confrère Blaise Zainda, qui dit qu'elle a parlé en tant que femme, mais je me trouve franchement qu'un homme ne peut pas parler de cette façon. Mais il n'y a pas seulement elle qui est femme. Nous avons Angela Merkel, c'est une dame de fer, qui était d'ailleurs la femme la plus puissante au monde. Mais elle ne peut jamais dire des propos comme ça avec la diplomatie mondiale qui évolue au jour le jour. Il faudra assez qu'elle puisse aussi trouver de quoi faire, parce que l'Afrique du Sud, elle ne fera pas vraiment les bénéficiaires ici chez nous, parce que moi je doute encore. Vous rappelez d'ailleurs ce qui s'est passé en Centrafrique. C'est pas moi de vous donner les résultats pour qu'aujourd'hui ils me parlent qu'ils sont les bénéficiaires pour les FARDC. Voilà un peu ce que je voulais dire.
Alors, on y va pour les perspectives sur l'Union africaine.
Voilà, c'est là où je vais, pour les perspectives de l'Union africaine. Bon, moi je doute fort d'abord des perspectives de cette Union africaine, parce qu'elle n'existe pas. Elle est, mais elle n'existe pas. L'Union africaine, après 50 ans qu'elle a célébré, depuis sa naissance, elle reste toujours un bébé qui est toujours gardé dans son berceau. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine ingérence que les présidents africains ont autorisée aux présidents occidentaux.
La communauté internationale, c'est elle qui gère l'Union africaine. Tous les présidents sont mis au pouvoir par les mêmes Africains, par les mêmes présidents occidentaux. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que François Hollande va prendre une décision et que le président camerounais, le président sénégalais, le président congolais, le président malien refuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine complicité entre l'ingérence de l'Afrique avec le président africain qui ne peuvent rien parler. Vous avez eu l'essor avec Muammar Kadhafi qui à un certain moment a haussé les tons pour demander que l'Afrique essaie de s'unir pour former les États-Unis d'Afrique comme les États-Unis d'Amérique, de former une banque de fonds monétaires africains et de fonds monétaires internationaux, de former une banque mondiale et une banque africaine que la Banque mondiale et d'avoir peut-être ses propres satellites.
Vous n'attendez rien de l'Union africaine.
Pardon ?
On retient que vous n'attendiez rien de l'Union africaine, Alain Touma.
En tout cas, pour quand vous parlez des perspectives, il faut voir d'abord ce qu'est l'Union africaine aujourd'hui. Aucun impact est possible. L'enfant préfectant reste toujours le même enfant, gardé dans son berceau. Et par ces babysitters, ben, c'est l'Union africaine, il fallait parler des babysitters. Voilà que je ne vois même pas aucune perspective dans ces cas.
Merci,
je reste toujours compliqué, ça ne peut pas aller.
Merci Alain Touma, Marcel Ngoï. Je suis sûr que vous vouliez réagir aussi sur les propos de la ministre sud-africaine.
Oui, ce sont des propos. Des propos quelque peu irresponsables, je peux dire irréfléchis, parce qu'il s'agit ici d'une affaire de la matérialisation d'un accord cadre, et cet accord cadre, l'Afrique du Sud en tant que pays a participé, n'est-ce pas, a été consulté et associé. Et donc, des propos comme tels, dans un État en crise, ne sont pas bien perçus par les populations et par une bonne frange importante de l'opinion. Et donc, à la prochaine fois, les autorités, les ministres, les gens qui ont un certain rang, devraient quand même mieux articuler leurs pensées lorsqu'ils veulent s'exprimer. Je prends très mal ces mots, surtout en ce moment où le Congo a besoin de cette aide pour pouvoir sortir de l'auberge.
Merci Martin Gouy. Deuxième et dernier thème de ce soir. Nord Kivu, les communautés ethniques de cette province demandent au gouvernement congolais d'éviter l'intégration des étrangers, des criminels ou des rebelles au sein des FRDC. Cette déclaration a été faite mercredi à Goma. C'était à l'issue d'une rencontre de sensibilisation des forces vives du Nord Kivu sur le désengagement des fils et filles de cette province des groupes armés. Bernardin Yangui nous en dit plus sur cette rencontre.
Le Nord Kivu vient de passer plus de 20 ans de guerre à connotation ethnique. Une des voies de sortie de cette crise passait par la formation d'une armée capable de protéger l'intégrité du territoire, pense plus de 200 notables du Nord Kivu qui ont participé à ces dialogues. Ces communautés s'engagent à sensibiliser leurs fils et leurs filles à quitter les groupes armés et mouvements rebelles, mais demandent que le gouvernement ait une rigueur dans la sélection des combattants à intégrer dans l'armée. Guy Kibira, président du conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu.
L'expression des notables se justifie justement par les soucis de les voir avoir une armée forte et capable de défendre l'intégrité du territoire. Sinon, si ils sont filtrés, eh bien, ça ne peut plus protéger la population.
D'autres leaders communautaires pensent que l'aide de la RDC serait déjà sortie des cycles de violence si le gouvernement avait la volonté. Emmanuel Kamanzi de la communauté Tutsi.
On aurait dû terminer cette guerre bien avant, mais il n'y a pas de volonté politique parmi les acteurs. C'est surtout ça.
Pour la MONUSCO, cette rencontre était aussi organisée dans le cadre des activités commémorative de la journée mondiale des casques bleus. Goma, Bernardin Yangui, Radio Okapi.
Blaise Zainda, journaliste à la radio-télévision digitale Congo. Comment vous analysez ces recommandations des communautés ethniques du Nord Kivu?
Dès que j'ai entendu cette information, je me suis dit, bon, de toute manière, il n'y a pas aussi touché que ces communautés-là, comme entités, qui subissent les affres de la guerre. Il n'y a pas de personnes qui sont aussi présentes que ces communautés-là, qui voient comment les choses évoluent sur le terrain. Il n'y a pas de personnes aussi, des témoins aussi oculaires ou auriculaires que ces communautés-là, qui voient et entendent comment est-ce que les différentes armées, comment est-ce que celui qui était voisin, lorsque une armée provient du Rwanda, immédiatement ce voisin-là entre dans cette armée-là. Donc c'est tout à fait valable et je comprends et je donne raison à 100% à ces communautés-là. C'est une rencontre qui a voulu sortir, effectivement, ce que tout le monde dit tout bas. Il est vraiment temps à ce que l'on puisse mettre un terme à ces mixages, que l'on prenne des gens qui étaient du CNDP, du RCD, et puis CNDP, et puis on les amène dans les FARDC, et puis ils rentrent encore au niveau du M23. C'est vraiment le grand temps de mettre un terme à cette situation-là. Que l'on recrute de nouvelles unités, il y en a, on en a recruté, peut-être que le nombre n'a pas été atteint comme on le voudrait, mais que l'on peut, avec un petit groupe, on peut réformer ou refaire une bonne armée, que de pouvoir toujours prendre les mêmes personnes qui reprennent des armes, et puis il y a suffisamment de place pour, ils peuvent faire de répondre aux appels d'offres, ce qui était militaire.
Et donc vous êtes contre l'intégration de ces groupes armés au sein des
FARDC? 100% contre. Je disais qu'il y a des appels d'offres qui ne cessent de tourner dans les différents médias du Bureau Central Coordination et d'autres institutions. On cherche du travail, qu'ils deviennent des maçons, je ne sais pas quoi, mais l'armée, ça doit finir pour ces gens-là.
Marcel Ngoï, vous êtes éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa, aussi contre l'intégration de ces groupes armés?
Oui, mais la solution, c'est laquelle? Où est-ce qu'on veut amener cette armée constituée de des éléments disparates venus de plusieurs groupes armés? Et aujourd'hui, le résultat, c'est la débâcle que nous avons. Vous prenez les anciens du MLC, les anciens du RCD, du KML, tout ça, vous les mettez ensemble. Et puis, au moment où il faut se battre, vous les envoyez au front. Et très généralement, c'est des gens à qui on donne des grades, juste pour le permettre, pour bénéficier des avantages induits lors de cette intégration, et bénéficier d'une certaine élévation. À ce moment-là, il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de discipline. La plupart, ce sont des civils qui n'ont subi aucune formation, et à qui on confie des postes de responsabilité. Au moment où il faut défendre la République, c'est la fuite, c'est la débandade. Donc on ne peut pas reprendre l'expérience du passé et la rééditer aujourd'hui comme un nouvel exploit. Il est temps de mettre fin à ces cycles répétitifs du mal qu'on endosse et qu'on emporte chez soi, comme si...
Mais est-ce que ça ne serait pas plus dangereux de les laisser continuer à semer la terreur?
Je ne suis pas pour autant pour la politique de l'abandon. Donc, par contre, la République doit... ce n'est pas pour rien qu'on avait créé à l'époque les DDRRR. C'était la démobilisation avec un mécanisme de réinsertion sociale de ceux qui ne pourraient pas continuer à militer sous les drapeaux, à travailler sous les drapeaux. Donc, il y a bien la possibilité de recommander, de revoir les choses. Mais lorsque j'ai lu les drafts, le draft du M23 qui circule concernant l'éventualité pour le M23 de conclure un compromis avec le gouvernement, et je me dis, finalement, on se retrouve devant la même équation. À l'époque, on avait Bosco Ntaganda. Et Laurent Kunda qui était passé de l'autre côté, on a pris Bosco Ntaganda avec le CNDP. Plus tard, c'est à Kabila qu'on demandait de livrer Bosco Ntaganda. Et Kabila passait pour le protecteur patenté de quelqu'un qui est recherché par la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, nous avons le M23 considéré comme une force négative par les Nations Unies. Et c'est avec le M23 qu'il faut conclure un accord. Et bientôt, la brigade va venir. Cette brigade va chercher à traquer les groupes armés, en ce compris le M23. Conclure quelque chose avec le M23, c'est assurer même la protection visible ou invisible de ces éléments qui seront traqués par la brigade. Donc, on est dans une sorte de dilemme. Où on dit, ici, on traîne les pieds en attendant la brigade d'intervention. La brigade d'intervention décidée depuis le 24 février, nous sommes au mois de mai finissant. La brigade ne vient pas. Ban Ki-moon nous parle d'un ou deux mois pour que cette brigade voie le jour. Entre-temps, on active, on réactive l'M23 autour de Goma pour créer davantage une sorte de distraction, parce qu'il faut encore se battre, investir. Merci. Dans l'argent, et puis en même temps on recommande qu'on aille à Kampala.
Merci.
Donc le dilemme pour le régime est assez criant.
Merci Marcel Lungo et Alain Tchouma. Cette rencontre s'est tenue à Goma et vous êtes présentement à Goma. On a suivi un notable de la communauté Tutsi qui dit que cette crise serait déjà terminée s'il y avait une volonté de la part du gouvernement congolais. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Oui, il a raison. C'est de la part du gouvernement congolais. Mais il a tort aussi, il fallait quitter les notables. Parce que la guerre que nous subissons aussi, il y a certaines notabilités qui participent. Et aujourd'hui, qu'on parle d'intégrer les groupes rebelles au sein du FARDC. Mais nous avons une première expérience. Nous l'avons fait avec le CNDP. Qu'est-ce que ça nous a fait? Ce n'est pas X1 qui a produit X2. C'était la même chose. Et intégrer les forces négatives et les groupes rebelles dans l'armée congolaise. Mais ça va nous servir à quoi? Est-ce que c'est l'armée qui nous manque? C'est l'effectif militaire qui nous manque? Et à quoi sert alors le recrutement qui est le gouvernement entre différents jours? Et s'il faut aussi intégrer, ce n'est pas moi qui ai dit qu'il y a des militaires rwandais ou ougandais qui continuent à combattre aux côtés des M23. Mais c'est toujours les mêmes experts des Nations Unies. Et dans ces cadres, est-ce que nous allons intégrer les forces rwandaises? Nous allons intégrer les forces ougandaises? Voilà un peu le problème. Et si nous continuons à intégrer les forces négatives et les groupes rebelles dans notre armée, ce sera juste le cycle des guerres. Nous serons en train de résoudre un problème pour faire naître un autre. Et ça ne va nous avantager en rien. Ce qui est possible, ce qui est important, que le gouvernement cherche d'autres moyens, d'autres stratégies pour arriver à mettre fin au problème des guerres. S'il faut parler de l'intégration, comprenez, madame, que la province du Nord-Kivu ne sortira jamais de cette guerre que nous sommes en train de subir, et ça sera toujours les mêmes meurtres, les mêmes crimes, les mêmes viols que nous serons toujours en train de compter pour les présenter aux Nations Unies, pour qu'ils nous envoient toujours, chaque jour, 3000 hommes, 4000 hommes, 17000 hommes, et ça ne va nous avantager en rien. Yes. Pour dire que l'intégration n'est pas vraiment une bonne solution pour moi et pour le peuple congolais, même si je suis sûr que ça va se faire, à moins que je sois un oiseau de mauvaise augure.
Merci Alain Chouma, l'intégration n'est pas la solution. La solution serait quoi? Anéantir tous ces groupes armés, Blaise Zaïnda?
Je l'ai toujours dit, la solution c'est d'abord faire parler les feux. Et puis après, lorsque l'on imposera la force de l'État, par la force que permettait cette tautologie-là, ainsi donc on commencera à parler pour régler tous les problèmes politiques qui existent, parce qu'on sait qu'en déraillant, une nouvelle fois, l'armée va revenir pour remettre de l'ordre.
Anéantir?
Oui. Il faut une force, il faut la poudre au canon, il faut que l'armée s'exprime. La puissance d'un État, c'est aussi l'armée qui est la mère, comme on dit, le pilier. Sans une armée forte, il ne sera impossible d'avoir une république qui est respectée dans la région et dans les conseils de nations.
Alors Alain Thomas, j'imagine aussi que pour vous la solution c'est l'anéantissement de tous ces groupes armés.
Comment se débarrasser, le faire disparaître? Ça pourra nous aider. Nous avons une force de FARDC, la force de FARDC, qui est en train de montrer de quoi elle est capable sur terrain. Bah, ça fait beaucoup de temps qu'elle se bat contre toute incursion des groupes rebelles ici chez nous. Pourquoi ne pas motiver cette armée, bien la nourrir, donner son salaire, bien sa solde, pour qu'en fait, des conditions continuent avec la même armée congolaise, sans infiltration, sans aucune culpabilité, et surtout ne pas travailler avec les criminels, parce qu'ils ne vont pas nous donner une bonne image sur le plan international.
Merci Alain Thomas, c'est la fin de cette émission. Merci Martin Goy, merci Blaise Zaïnda, merci Alain Hung qui était à la réalisation. La mise en onde est assurée par Alain Goy. Au micro, Kélim Kouté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Rédiffusion demain 4h15, heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.